de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et bientôt, je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Un professeur de recherche de COVID-19 d'origine de la Chine, retrouvé assassiné aux États-Unis. Belarus, le commerce international doit se dérouler au milieu d'une pandémie. La Corée du Sud desserre les restrictions. L'ambassadeur transmet un message aux citoyens indonésiens. La pandémie de coronavirus fait augmenter le prix des drogues illicites selon l'ONU. La Chambre des représentants indonésienne demande au ministère des Affaires étrangères de surveiller étroitement les citoyens indonésiens qui deviennent les membres d'équipage à l'étranger. Garuda Indonesia rouvre ses réservations de vol et le Parlement irakien approuve le cabinet de Kadhimi. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Un professeur de recherche de COVID-19 d'origine de la Chine retrouvé assassiné aux États-Unis, prétendument avoir réussi à trouver des choses importantes liées au coronavirus. Un professeur chercheur aux États-Unis a été retrouvé tué de multiples blessures par balles. Comme rapporté des médias locaux de Pittsburgh, WTAE, jeudi 7 mai 2020, le professeur nommé Bing Liu, de 37 ans. Il est médecin diplômé de l'Université nationale de Singapour et toute sa famille vit en Chine. Il a été retrouvé mort à son domicile dans la ville de Ross, en Pennsylvanie, samedi le week-end dernier. Il a des cicatrices par balle sur la tête, le cou et la poitrine. La coupable serait un homme retrouvé mort dans sa voiture, connu sous le nom de Hao Gu, de 46 ans. Il aurait tué Liu, puis serait retourné à sa voiture et se serait suicidé. La police soupçonne également les auteurs et les victimes de se connaître. Liu et chercheur au département d'informatique et de systèmes biologiques de la faculté de médecine de l'Université de Pittsburgh. Selon le campus, Liu fait actuellement des recherches sur le coronavirus et il est au bord d'une découverte importante. Biélorusse, le commerce international doit se dérouler au milieu d'une pandémie. La lutte contre une pandémie ne doit pas entraîner une rupture de la coopération dans le secteur manufacturier. La suspension du commerce international et la cessation des activités d'investissement. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre du Bélarus, Sergueï Roumas, lors du sommet du mouvement des pays non alignés, qui a spécifiquement discuté de la gestion du COVID-19. Sur la base d'informations écrites reçues jeudi de l'ambassade du Bélarus à Jakarta, il a également déclaré qu'il ne pouvait pas permettre à la guerre contre la pandémie de COVID-19 de rompre les liens de coopération dans les domaines de la fabrication et de la logistique, de cesser le commerce international et de suspendre les activités d'investissement. Selon lui, le Bélarus accorde une grande attention à la prise de décisions stratégiques immédiates, ce qui permettra de rétablir rapidement l'activité économique après une pandémie. Sergueï Roumas a souligné que les pays membres du mouvement des pays non alignés doivent montrer leur détermination à mettre de côté les différences politiques et économiques et à unir leurs efforts dans la lutte contre l'infection par le coronavirus. La Corée du Sud desserre les restrictions. L'ambassadeur transmet un message aux citoyens indonésiens. L'ambassadeur d'Indonésie en Corée du Sud, Umar Hadi, a transmis un message aux Indonésiens vivant en Corée du Sud pour qu'ils continuent de prêter attention à leur santé après que le gouvernement local ait desserré des restrictions fixées mercredi 6 mai. L'ambassadeur Umar, lors d'une session de séminaire via Internet diffusée mercredi par le Centre indonésien des études stratégiques et internationales, SCRS, a déclaré que l'assouplissement des restrictions sociales ne signifiait pas de revenir au monde de vie qui est fait avant la pandémie. Au lieu de cela, il doit vivre une nouvelle vie normale, vivre activement, mais faire plus attention à la santé et à la sécurité personnelle. Selon l'ambassade d'Indonésie à Séoul, plus de 40 000 citoyens indonésiens vivent en Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes ont commencé mercredi 6 mai à assouplir la politique de restrictions sociales après l'application stricte de la règle en mars. Le gouvernement local permettra aux magasins et aux installations publiques de reprendre leurs activités, des écoles, des universités, des parcs et des bibliothèques publiques en Corée du Sud seront également progressivement ouverts. La pandémie de coronavirus fait augmenter le prix des drogues illicites selon l'ONU. Les contrôles aux frontières, la quarantaine territoriale et les restrictions de vol liées au COVID-19 rendent les prix des drogues illégales plus chers et difficiles à obtenir dans le monde. C'est ce qu'a déclaré l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié jeudi 6 mai. Les contrôles aux frontières, les blocages et les pénuries de vols liées au coronavirus rendent les drogues illégales plus chères et difficiles à obtenir dans le monde, a déclaré l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié jeudi. Le Bureau des Nations Unies, l'ONUDC, a déclaré dans le rapport COVID-19 que la pandémie avait un effet significatif sur la production de drogue dans diverses régions et la contrebande par air, terre et mer. Mais les tendances générales dans les pays où les drogues étaient consommées semblaient être relativement uniformes. De nombreux pays dans toutes les les régions ont signalé des pénuries de divers types de drogues au niveau du détail, ainsi que des augmentations de prix, des réductions de la pureté et que les consommateurs de drogues, par conséquent, ont changé à l'utilisation de substances, par exemple, de l'héroïne aux opioïdes synthétiques et où ont de plus en plus accès aux traitements médicamenteux. Alors que divers types d'opioïdes tels que l'héroïne sont presque entièrement transportés par voie terrestre, où l'augmentation des contrôles peut perturber les livraisons, la cocaïne est principalement expédiée par voie maritime. La Chambre des représentants indonésiens demande au ministère des Affaires étrangères de surveiller étroitement les citoyens indonésiens qui deviennent les membres d'équipage à l'étranger. Le vice-président de la Commission 1 de la Chambre des représentants indonésiennes, Abdul Haris Al-Manshari, a demandé au ministère des Affaires étrangères de continuer à surveiller de l'état des équipages indonésiens à Beka qui sont toujours bloqués à l'étranger, y compris aux 18 membres d'équipages indonésiens qui travaillent sur le navire Longsing 629 battant pavillon chinois. Comme l'ont rapporté les médias sud-coréens, 4 membres d'équipage d'Indonésie sont morts et 3 d'entre eux ont été jetés en haute mer. Jeudi 7 mai, Haris à Jakarta a exprimé sa profonde préoccupation et ses condoléances pour la mort de l'équipage indonésien travaillant sur le navire. L'État doit fournir la protection et l'assistance à tous les citoyens indonésiens, notamment en veillant à ce qu'il n'y ait pas de violence, d'exploitation et de violation des valeurs humaines. Haris a ajouté, comme indiqué à l'article 18 de la loi numéro 37 de 1999 sur les relations extérieures, que le gouvernement doit protéger les intérêts des citoyens indonésiens ou des entités juridiques indonésiennes. Garuda Indonesia rouvre ses réservations de vol. La compagnie aérienne Garuda Indonesia a rouvert ses réservations de vol à partir du mercredi 6 mai 2020 à 15h, suite à la nouvelle autorisation de tous les modes de transport par le ministère des Transports à partir du jeudi 7 avril 2020. Le président directeur de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, comme rapporté par Antara, a affirmé que le site web de Garuda Indonesia avait commencé à ouvrir les réservations de vols. Ainsi, selon lui, cette compagnie aérienne a de nouveaux volés jeudi le 7 mai 2020. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, lors de la réunion de travail virtuel avec la commission 5 du Parlement, a déclaré que tous les modes de transport avaient rouvert à partir du jeudi 7 mai 2020. Boudia a expliqué que la politique était l'une des élaborations du règlement du ministre des Transports numéro 25 en 2020 concernant le contrôle des transports pendant la saison de rentrée à la ville natale de l'Eid Moubarak 1441 Égir dans le contexte de la prévention de la propagation de COVID-19. Le Parlement irakien approuve le cabinet de Kadhimi. Le Premier ministre irakien Mustafa Kadhimi a officiellement pris ses fonctions jeudi 7 mai après que le Parlement a approuvé la composition de son cabinet. Kadhimi a servi l'Irak face à une crise économique, à la pandémie de COVID-19 et à une série de manifestations. en continuant à entretenir une distance sociale pour empêcher la propagation du COVID-19, les législateurs irakiens portant des masques et des gants ont accepté 15 ministres devant deux postes ministériels, 7 ministères restant vacants en raison de batailles politiques sur le partage du pouvoir. Kademi, une ancienne agence nationale irakienne de renseignement INIS, a été nommée par le président Barham Saleh le 9 avril pour remplacer Abdel Mahdi. Abdel Mahdi a démissionné l'année dernière après que des Irakiens aient organisé des manifestations pendant des mois pour protester contre la corruption et le chômage. Il est devenu le premier ministre irakien à démissionner depuis l'invasion des États-Unis en 2003, renversant Saddam Hussein. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre « Quand Kim Jong-un apparaît ». La question de la mort de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a été réglée. Après des rumeurs sur sa maladie et sa mort au début d'avril et 3 semaines d'absence, le dirigeant nord-coréen a semblé inaugurer une usine. Les spéculations sur l'endroit où se trouvait Kim et son état de santé ont culminé lorsqu'il n'a pas assisté à l'anniversaire de la naissance de son grand-père, Kim Il-sung, qui était le fondateur de la Corée du Nord. De plus, le dirigeant nord-coréen n'a de nouveau pas été vu lorsqu'il devait recevoir une médaille de la Seconde Guerre mondiale du président russe Vladimir Poutine. Le prix a été décerné parce que Kim a préservé la mémoire des soldats soviétiques tués en Corée du Nord, selon l'ambassade de Russie à Pyongyang. Le monde spécule en effet souvent sur la condition et l'existence du leader nord-coréen. Cela est certainement indissociable de la position de négociation de la Corée du Nord en termes de maîtrise des armes nucléaires mondiales. La disparition de Kim du public s'est produite lorsque les pourparlers de Pyongyang avec Washington concernant les armes nucléaires de la Corée du Nord ont pris fin après 3 rencontres entre Kim et le président américain Donald Trump. Si Kim n'est pas en mesure de poursuivre le discours au D7 même en première, cela augmentera l'incertitude dans ce processus de négociation. Naturellement, le monde international a ensuite souligné l'absence de Kim Jong-un avec diverses spéculations. Pour la Corée du Nord elle-même, l'absence de Kim Jong-un a également une influence car l'autorité de ce chef suprême comprend le parti travailliste au pouvoir ainsi que les militaires. Toutes les décisions importantes nécessitent son approbation. L'absence de Kim Jong-un signifie le vide dans certains segments de la vie nord-coréenne. Sans parler de l'émergence d'un nouveau problème concernant la construction d'un nouveau réacteur nucléaire sur la péninsule nord-coréenne. Le monde est en effet en pleine incertitude, qu'il s'agisse des armes nucléaires, des conflits dans diverses régions ou de l'actualité brûlante, la pandémie de COVID-19. L'existence et l'état de santé de Kim Jong-un complètent cette incertitude. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Secrétaire, bonsoir. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui qui se déroulera le 8 mai. Nous commençons par l'événement de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 7 mai 1945, le général Alfred Jod, commandant des forces armées allemandes, a signé un document selon lequel l'Allemagne se rendait sans condition et a ordonné à tous les membres de l'armée allemande de cesser de tirer le 8 mai à 23h01 heure locale. Puis, Field Marshal Wilhelm Keitel et un certain nombre d'officiers allemands de haut rang se sont envolés pour Berlin et ont signé un document similaire avec l'Union soviétique. La nouvelle de la capitulation de l'Allemagne a été connue par les Européens occidentaux le 8 mai au matin, qui est accueilli par des millions de personnes dans les rues en célébrant la fin de leur souffrance. Alors que la nouvelle est arrivée à Moscou en Russie le 9 mai, la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale a donc été différente entre l'Europe occidentale et la Russie. Nous terminons notre histoire d'aujourd'hui avec la Journée mondiale de la Croix-Rouge. La Journée mondiale de la Croix-Rouge a été commémorée pour la première fois le 8 mai 1948. C'est pour apprécier le service d'un inventeur du mouvement mondial de la Croix-Rouge, Henri Dunant, qui est également né à la même date. La commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge a pour objectif d'inspirer, de faciliter et de promouvoir toutes les activités humanitaires menées par la communauté internationale de la Croix-Rouge et les membres de la communauté nationale qui la suivent. En outre, la commémoration est également une occasion d'apprécier le service de bénévoles et d'employés qui ont eu du mal à sauver la vie de nombreuses personnes. C'est retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. À demain.
Selalu seperti ini berjalan, derita pasca senang-senang. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Kerasnya kehidupan, derasnya arus pergaulan. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement prépare des mesures d'atténuation pour faire face à la sécheresse au milieu d'une pandémie. Le gouvernement prépare des mesures anticipatives pour faire face à la sécheresse au milieu de la pandémie de COVID-19. Sur la base des prévisions de l'Agence mondiale de l'alimentation, FAO, la crise alimentaire frappera le monde en raison de la longue sécheresse et de COVID-19. D'après les prévisions de l'Agence météorologique, climatologique et géophysique, 30% des régions d'Indonésie connaîtra une longue saison sèche. Il est à craindre que cette condition ait un impact sur la rareté des aliments de base. Par conséquent, l'anticipation de l'atténuation doit être correctement préparée afin que le travail et la stabilité des prix des denrées alimentaires ne soient pas perturbés. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo lors de diriger la réunion restreinte sur le thème « Anticiper l'impact de la sécheresse sur la disponibilité des aliments de base ». La réunion s'est tenue virtuellement et assistée par le vice-président Ma'ruf Amin et les ministres du cabinet Indonésia Maju au Palais d'État dans le centre de Jakarta mardi. Comme mesure d'anticipation, le président Jokowi a demandé à ses personnels d'assurer la disponibilité de l'eau dans toutes les régions des centres de production agricole. L'eau en tant que clé de production doit être préparée à partir de maintenant, à partir du stockage de l'eau de pluie, du remplissage des lacs, des réservoirs, des bassins de rétention et d'autres réservoirs artificiels d'eau. De plus, il souhaite une meilleure gestion des stocks alimentaires. Le président Joko Widodo a demandé à l'agence de logistique d'acheter des grains de riz aux agriculteurs afin que les prix chez les agriculteurs soient meilleurs. À cette occasion, le président Joko Widodo a également demandé aux agriculteurs d'accélérer la saison de croissance avant la saison sèche de 2020. Les agriculteurs doivent profiter des précipitations qui existent encore aujourd'hui. Il faut s'assurer que les agriculteurs continuent de produire, doivent continuer à planter en mettant en œuvre des protocoles sanitaires. Par conséquent, la disponibilité des infrastructures agricoles liées aux semences et aux engrais doit être réellement disponible et abordable. En outre, le gouvernement avait déjà préparé une relance économique pour les agriculteurs. Lors d'une réunion restreinte le 28 avril dernier, le ministre de la coordination de l'économie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement offrirait une incitation à 2,44 millions d'agriculteurs d'une valeur de 600 000 rupiah pour pouvoir planter au cours de la prochaine période. L'incitation a pris la forme d'une aide en espèces directe de 600 000 rupiah, se composant de 300 000 rupiah de l'aide en espèces et 300 000 rupiah sous forme d'installation de production agricole pendant 3 mois. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination de l'Économie, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement préparait une nouvelle grange à riz à Kalimantan, conformément aux instructions du président il y a quelques temps. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu. Dia mengulir relung hati, kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau yang tak mungkin untuk bersatu. Kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati. cinta ini. Jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama. Lewati segala suka duka, tiada cinta bicara. Cinta sejati tak akan pernah mati, selalu menghidupi ketulusan cinta ini.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La soupe de Senerek. Magelang, l'une des villes de la province du centre de Java, possède le charme et la beauté naturelle. Il n'est pas étonnant que cette ville soit l'une des destinations touristiques les plus préférées du centre de Java. En tant que l'une des destinations touristiques les plus préférées dans cette province, Magelang a une variété d'objets touristiques tels que le site culturel, le site historique, la colline,
le parc et la cascade, y compris une variété de délicieux plats de Magellan. L'un d'entre eux est la soupe de Sénérec. La soupe Sénérec est l'un des menus de l'époque coloniale néerlandaise en Indonésie. Sénérec est tiré du mot snert, qui signifie en néerlandais poids. Par la communauté locale, la soupe de snert a ensuite été modifiée avec des ingrédients plus faciles à obtenir, à savoir des haricots rouges avec des légumes complémentaires tels que les carottes, les épinards et les poireaux. En plus d'utiliser l'ail comme marinade, cette soupe utilise également des épices telles que l'égus et la noix de muscade. Tout est ensuite aspergé de bouillon frais contenant du bœuf ou des tripes. Quand elle sera mangée, l'arôme de l'ail sent très fort. La sauce en goût frais est salée avec un bouillon délicieux. D'habitude, cette soupe Sénérec est servie avec du riz chaud et une sauce chili, ainsi que divers aliments d'accompagnement pouvant être sélectionnés en fonction de vos goûts, tels que le saté d'escargot, le tofu et le tempeh. À Magellan, vous pouvez facilement trouver cette soupe à un prix relativement bon marché, environ 15 000 rupiah jusqu'à 20 000 rupiah par portion. Chers amis, c'était un magazine culturel intitulé La soupe de Sénérec de la province de Java Central. Merci à tous et à bientôt.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu jadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da-da, da-da-da, 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 da-da-da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Serge Tok, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur. Pour ce soir, ayant pour titre, l'équipe indonésienne remporte plusieurs championnats au Shell Eco Marathon 2019. Soyez toujours avec nous sur www.voice.id. Des étudiants de diverses universités d'Indonésie ont remporté le titre lors du Shell Eco Marathon Asia 2019 organisé en Malaisie. Dans cet événement, les étudiants sont mis au défi de construire une voiture et ensuite cette voiture est testée pour déterminer qui consomme le moins de carburant. Il y a plusieurs catégories qui sont contestées allant du type de concept urbain au type de prototype. Et il existe également plusieurs sources d'énergie telles que la combustion interne comme essence, diesel, éthanol et la batterie électrique ainsi que l'hydrogène. Suivie par 108 équipes de 18 pays, l'Indonésie a pu remporter plusieurs titres de cette compétition. L'équipe Sapu Angin de l'Institut de Technologie de 10 novembre, ou ITS, a de nouveau remporté la voiture urbaine la plus économique utilisant des sources d'énergie à essence. Les voitures urbaines sont des véhicules conçus pour économiser le carburant et ressembler à une voiture de tourisme. Les voitures urbaines sont réservées à un seul passager. Sapu Angin a atteint 395 km par litre. Outre ITS, les autres équipes indonésiennes qui ont également remporté les deuxième et troisième places sont le Garuda UNY Eco Team de l'Université de Yogyakarta et Sadewa de l'Université d'Indonésie. Dans le domaine des voitures électriques, l'Indonésie a remporté les victoires aux 2 et 3 positions de la catégorie du concept urbain de batterie électrique. La deuxième place a été remportée par l'Institut de Technologie de 10 novembre et la troisième place par l'Université indonésienne de l'éducation. Dans la catégorie des prototypes, l'équipe Rakata de l'Institut de Technologie de Bandung, ITB,
a réussi à obtenir la troisième position avec des sources d'énergie à combustion interne au éthanol. En utilisant cette voiture faite par ITB, vous pouvez aller de Jakarta à Surabaya avec seulement 1 litre d'éthanol. Cela peut arriver parce que l'équipe Jakarta d'ITB a obtenu 926 km par litre. C'est le dernier record de l'Indonésie dans la classe des prototypes d'éthanol. Serviteurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, kukirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Yang apa kini semuanya indah? Oh rasanya
ada cinta yang ku rasakan saat bertata dalam jalan.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Ces auditeurs auditrices, beaucoup de médias ont été utilisés par les saints islamiques pour diffuser les enseignements de l'islam. L'un d'entre eux est par des arts. Le da'wah par des arts ont été faits par des saints islamiques d'Indonésie pour diffuser l'islam. Tombouati est l'une des chansons créées par Sunan Bonang. Cette chanson explique les étapes du traitement de foi. Le premier est de lire le Coran et sa signification, car le Coran contient une explication très détaillée de divers problèmes de la vie. La seconde est de déguiser la prière du soir, car elle se rapprochera de Dieu. La troisième est de se réunir avec des personnes saintes qui peuvent influer directement sur le comportement qui est louable pour que cela profite à la vie. La quatrième est le jeûne qui peut s'entraîner à faire preuve de patience pour faire face aux divers problèmes de la vie. La cinquième est de prolonger le zikr de la nuit, ce qui rapprochera l'esprit et le cœur du grand caractère Dieu. Ces solitaires, voici la chanson intitulée Tombouati.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!